Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 7 de la Sainte Sourate Ma'oun. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
أرأيت الذي فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Vois-tu qui traite de mensonge la rétribution? Or, c'est celui qui repousse l'orphelin et qui n'incite point à nourrir le pauvre. Malheur donc aux célébrateurs d'office qui sont négligents dans leur office. Ceux-là qui font ostension et jettent l'interdit sur la chose d'utilité courante.
« Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 23 Mordad 1400 du calendrier iranien, 14 août 2021. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique affirme que les frontières de l'Iran bénéficient d'une sécurité totale. Les Américains gèlent la libération de 10 prisonniers, a déclaré le vice-ministre iranien des Affaires étrangères. Les États-Unis imposent des sanctions à plusieurs personnes et entités iraniennes. Et en Afghanistan, les talibans sont près de Kaboul, les Occidentaux évacuent. C'était les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a tweeté que la libération de 10 prisonniers, dont Anoucheh Achouri, avait été conclue il y a des semaines. Pourtant, vos amis à Washington ont stoppé la procédure, s'adressant au ministre britannique des Affaires étrangères. À l'occasion du 4e anniversaire de la détention d'Anoucheh Achouri, j'appelle l'Iran dans les termes les plus forts possibles à libérer Anoucheh et tous nos Britanniques détenus arbitrairement afin qu'ils puissent être réunis avec leurs familles. Leur détention continue et totalement injustifiée, avait précédemment tweeté le secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères. En réponse au ministre britannique des Affaires étrangères, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a tweeté « Vous savez mieux que quiconque que l'accord pour la libération de 10 prisonniers, dont Anoucheh Achouri, a été conclu il y a des semaines. Mais vos amis à Washington l'ont gelé. Achouri et 9 autres personnes sont pris en otage par les États-Unis à des fins politiques. J'espère que vous expliquerez cela à vos propres peuples », a-t-il déclaré. Le conseiller aux affaires internationales et aux accords commerciaux de l'Organisation de promotion du commerce de l'Iran a qualifié l'Eurasie de voie pour le développement des exportations iraniennes et l'accès aux marchés mondiaux. Mirhadi Seyedi a déclaré « L'un des avantages du commerce avec les États membres de l'Union économique eurasienne est l'augmentation de la part des exportations et l'accès aux marchés mondiaux à travers ces pays. » Seyedi a ajouté qu'après la signature de l'accord préférentiel, les importations et les exportations entre les États membres de l'Union économique eurasienne et l'Iran ont été facilitées. Se référant aux 8 millions d'habitants de l'Union économique eurasienne dans les pays voisins de l'Iran, le responsable a noté que ces pays, avec plus de 300 milliards de dollars d'importation, sont des pôles économiques majeurs qui peuvent être considérés comme des marchés majeurs pour les produits manufacturés iraniens. Les statistiques montrent qu'au premier trimestre de l'année en cours, l'Iran a exporté pour 258 millions de dollars de marchandises vers l'Eurasie et a importé pour 347 millions de dollars de marchandises de ces pays. La Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie et le Kirghizistan sont les cinq membres de l'Union économique eurasienne. Les États-Unis ont imposé des sanctions à un ressortissant omanais et à plusieurs entreprises qui, selon Washington, sont liées à l'Iran. Le département du Trésor américain a décrit l'individu comme un contrebandier de pétrole. Il a également ciblé quatre entreprises, deux basées à Oman, une libérienne et une autre en Roumanie, évoquant leur soutien présumé au corps des gardiens de la révolution islamique. Les mesures gèlent tous les actifs des personnes et des entreprises aux États-Unis et interdisent aux entreprises américaines de faire affaire avec ces entités et personnes. En Afghanistan, les talibans étaient presque arrivés aux portes de Kaboul vendredi, continuant leur implacable progression en Afghanistan, d'où de nombreux pays, dont les États-Unis, vont évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates. Après Kandahar, seconde grande ville du pays, les talibans se sont aussi emparés vendredi de la ville de Pulealam, capitale de la province du Logar, située à seulement 50 km au sud de Kaboul, et contrôle désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, toutes tombées en seulement 8 jours. Ils avaient pris auparavant Lashkargah, capitale de la province de Helmand. L'essentiel du nord, de l'ouest et du sud de l'Afghanistan est maintenant sous leur contrôle. Kaboul, la capitale du pays, Mazar-e-Sharif, la grande ville du nord et Jalalabad dans l'est sont les trois seules grandes villes encore sous le contrôle du gouvernement central. Les États-Unis et de nombreux pays européens ont commencé à déployer des milliers de soldats pour aider à évacuer leurs diplomates et leurs ressortissants d'Afghanistan. Le Pentagone a déclaré que ses forces seraient prêtes à transporter par avion des ressortissants américains de Kaboul si nécessaire. Le gouvernement britannique a également déclaré qu'une opération militaire était lancée pour aider à évacuer les ressortissants britanniques, les exhortant à quitter le pays immédiatement. Le secrétaire général des Nations Unies a appelé les talibans à arrêter immédiatement leur offensive en Afghanistan. Antonio Guterres a averti que l'Afghanistan était en train de devenir incontrôlable. Il a déclaré aux journalistes que la prise de pouvoir par la force militaire est une proposition perdante qui ne peut que conduire à une guerre civile prolongée. Guterres s'est dit préoccupé par les premières indications selon lesquelles les talibans imposent de sévères restrictions aux droits humains dans les zones sous leur contrôle. Le chef de l'Organisation des Nations Unies a appelé toutes les parties à faire davantage pour protéger les civils. Depuis le début de l'année, près de 400 000 personnes ont été récemment déplacées par le conflit en Afghanistan et 10 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays sont arrivées à Kaboul entre le 1er juillet et le 12 août, ont indiqué les Nations Unies. Les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre Cuba, invoquant des violations présumées des droits humains. Ce sont cette fois deux responsables du ministère cubain de l'Intérieur qui sont visés. Leurs avoirs aux États-Unis sont gelés et l'accès au système financier américain leur est dorénavant barré. Ces sanctions suivent deux précédentes séries annoncées fin juillet. Le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez, a dénoncé sur Twitter des mesures américaines opportunistes qui, selon lui, reflètent les normes d'un gouvernement habitué à la manipulation et aux mensonges pour maintenir le blocus contre Cuba. Rodriguez avait précédemment dénoncé les manifestations comme une provocation systémique par des dissidents soutenus par les États-Unis. Cuba a été le théâtre de manifestations antigouvernementales les 11 et 12 juillet en raison d'une crise économique persistante. La Havane blâme la pression économique exercée par Washington depuis des décennies ainsi que la pandémie de COVID-19 comme étant la principale cause du ralentissement économique. Et enfin, le gouvernement américain a une nouvelle fois mis en garde contre un climat aigu de menaces terroristes. Le ministère de la Sécurité intérieure a amendé un bulletin d'alerte antiterroriste datant de janvier après l'assaut mené par des partisans de Donald Trump sur le Capitole qui, pour la première fois, mettait l'accent sur les menaces intérieures. Le bulletin avait déjà été amendé en mai face au risque de voir des extrémistes profiter de la levée des restrictions sanitaires grâce aux progrès accomplis contre la pandémie pour mener des attaques violentes. Ces extrémistes pourraient tenter d'exploiter l'émergence des variants de COVID-19 en voyant le potentiel autour de restrictions sanitaires publiques à travers les États-Unis comme un mobile pour effectuer des attaques, précise le ministère, qui estime que des facteurs de stress liés à la pandémie peuvent contribuer à une hausse de la violence cette année. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique affirme que les frontières de l'Iran bénéficient d'une sécurité totale et a rejeté les inquiétudes concernant les développements en cours en Afghanistan. Le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les frontières du pays étaient totalement sécurisées. Les forces du corps des gardiens de la révolution islamique, de l'armée et de la police, surveillant et contrôlant de près les zones frontalières, alors que les talibans s'emparaient de nouveaux territoires en Afghanistan voisin. Les forces armées sont présentes aux frontières orientales du pays, avec une préparation et une vigilance totale, a déclaré le général de division Hossein Salami aux journalistes vendredi matin lors d'une visite dans la ville de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran. Le général Salami a réitéré que tous les postes frontaliers, officiels et non officiels, dans l'est du pays, sont sous le contrôle total des forces armées iraniennes. Les gens ne devraient pas du tout s'inquiéter, car la portée de nos observations a dépassé les frontières et nous surveillons et contrôlons tous les développements dans le pays voisin, a-t-il déclaré. Ces dernières semaines, les talibans ont mené un saccage massif à travers l'Afghanistan déchiré par la guerre, prenant le contrôle de plusieurs villes stratégiques et ils avancent vers la capitale, Kaboul. Les talibans contrôlent désormais plus de la moitié de quelque 400 districts du pays. Ils se sont emparés jeudi de la ville de Herat, la troisième plus grande ville d'Afghanistan, et se sont emparés d'un autre chef-lieu de district à seulement 150 km de Kaboul. La ville de Herat, qui se trouve à environ 150 km de la frontière iranienne, abrite le chef de guerre vétéran Ismail Khan, qui depuis des semaines a rassemblé ses forces pour prendre position contre les talibans et était considéré par beaucoup comme le premier espoir de la ville de Herat. Seyed Rasoul Moussavi, directeur du département de l'Asie occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré vendredi matin que les forces des talibans contrôlaient la ville de Herat. Le consul général iranien, les diplomates et le personnel du consulat général se trouvent à l'intérieur du bâtiment. Je suis en contact régulier avec eux. Les forces qui contrôlent la ville sont attachées à la sécurité totale du consulat général, de ses diplomates et de son personnel, a déclaré Moussavi sur son page Twitter. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a également exprimé la préoccupation de Téhéran face à l'intensification de la violence en Afghanistan et a appelé à une attention particulière à la protection de la vie de personnes innocentes au milieu du conflit en cours. Soulignant la prise de contrôle de la ville de Herat par les talibans, Khatibzadeh a déclaré que la nécessité d'assurer la sécurité et la santé complète des diplomates et des missions diplomatiques sur place est très urgente. Il a ajouté que Téhéran reste en contact régulier avec le consulat général de la République islamique d'Iran à Herat et y assure la santé et le bien-être des diplomates iraniens.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Le Débat. Dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, on va aborder avec deux spécialistes des questions internationales et cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères. Le ministre israélien des Affaires étrangères qui a effectué cette visite au Maroc où il a signé avec son homologue marocain plusieurs accords de coopération bilatérale. Cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères intervient après la normalisation des relations entre ce pays et le régime israélien. Le Maroc était le quatrième pays à normaliser ses relations avec le régime israélien sous la présidence de Donald Trump, d'ancien président américain. Cette décision du Maroc a suscité des réactions plutôt négatives tant au niveau national qu'à l'échelle régionale. Et cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères intervient à un moment où, dans un autre pays du nord de l'Afrique, à savoir la Tunisie, il y a un président qui en fait défend fermement la cause palestinienne. Je parle bien sûr du président Kais Saied. Et dans l'autre pays, l'Algérie, il y a même son de cloche où le président Tebboune dit qu'il n'est pas question pour Alger de normaliser ses relations avec le régime israélien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités, comme je viens de vous le dire. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Damas un juriste français spécialiste des questions internationales, Maître Arnaud Develet. Maître Develet, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à votre invité.
Et j'ai le plaisir également d'avoir avec moi pour cette émission depuis Bruxelles un géopoliticien belge des questions internationales, Monsieur Luc Michel. Luc Michel, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous, à toute votre équipe, à vos téléspectateurs et bonjour à Maître Develet que j'ai toujours grand plaisir à retrouver.
Merci infiniment d'avoir choisi de cette émission Le Débat. Et Luc Michel, je viens de lancer le sujet, on vient d'en parler dans notre reportage. Quelle analyse portez-vous sur cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères?
Le problème est beaucoup plus fondamental que le cas. Le Maroc, c'est véritablement la porte d'entrée du bloc américano-occidental dans toute l'Afrique et dans les accords qui ont été forgés par Trump, c'est comme avec les Saoudiens et les Émiratis, on a officialisé des relations clandestines qui existaient depuis des années. Quand on voit particulièrement le scandale des logiciels espions de la firme israélienne NSO actuellement en Europe, on sait les liens qui apparaissent entre le lobby militaro-industriel israélien et le Maroc. Et le problème du Maroc, ouais. Déjà au début des années 60, le Maroc avait saboté les États-Unis d'Afrique. C'était l'époque où le bloc de Monrovia de Krouma s'opposait précisément au bloc de Casablanca. Ça a été la fin des États-Unis d'Afrique. Depuis quelques années, depuis le soi-disant printemps arabe, le Maroc est devenu littéralement la porte d'entrée de l'OTAN et de l'Afrique comme en Afrique. L'OTAN a proclamé le Maroc meilleur allié de l'OTAN. Le Maroc meilleur allié de l'OTAN. Il y a eu, il y a quelques semaines, un grand exercice qui on a vu 10 armées africaines, ou des armées africaines et africaines, pour déployer au final du Maroc, du Sahara marocain, ex-ministre, frontière du Mali, où les colonels pro qui sont pris de pouvoir, et le Maroc, qui est dans toute l'Afrique, qui sert de porte d'entrée maintenant à l'Afrique et à l'OTAN. Il appuie en particulier le projet de redéploiement de l'OTAN. L'OTAN, jusqu'ici, ne s'intéressait précisément au Maroc, à l'Algérie et à la Libye. Maintenant, l'OTAN, avec les Américains, est en train de se redéployer dans toute l'Afrique, depuis le Mozambique jusqu'aux frontières du Maroc, précisément. Enfin, dernier élément, la super base de Kestevi, qui actuellement est au Maroc, est en train d'être délocalisée. En Espagne, est en train précisément d'être délocalisé au Maroc. Dans le cadre de la confrontation avec la Russie pour le contrôle de la Méditerranée, c'est un rôle extrêmement négatif du Maroc qui se double enfin pour être complet d'une dernière opération. Il y a donc le projet de Macron de relancer France-Afrique 2.0 et de relancer la domination coloniale, cette fois-ci sur les économies africaines. Il y a donc, on a fait entrer le Maroc dans la CEDEAO, c'est la France qui a mené l'opération. Et maintenant, Macron tente, avec le roi du Maroc et le président ivoirien Alassane Ouattara, de prendre le contrôle de la CEDEAO et de s'envoyer une unique qu'on appelle l'ECO, dont ils veulent faire le nouveau visage du franc CFA. C'est donc un rôle globalement négatif du Maroc, alors que le Maroc et les intellectuels marocains dans tous les colloques internationaux, prétendent qu'il représente une forme conservatrice du panafricanisme, alors que c'est son sabotage. Mmh. Voilà ce qu'il faut comprendre. Au milieu de tout ça, les Israéliens, c'est la cerise pourrie sur le gâteau pourri. C'est bien entendu l'un des éléments les plus agressifs vis-à-vis des Palestiniens du Proche-Orient, du bloc américano-israélien, c'est cela la réalité aujourd'hui de la politique étrangère marocaine.
Maître de Volley, que vous avez écouté, tout comme moi, Luc Michel, de Luc Michel, qui estime que voilà, il faut interpréter cette visite au Maroc du ministre israélien des Affaires étrangères dans le cadre d'un projet bien calculé, concocté par l'OTAN et très particulièrement les États-Unis, un projet qui vise en fait à permettre le redéploiement, si vous voulez, considérable de l'OTAN et des États-Unis, en l'occurrence du régime israélien en Afrique. Est-ce de votre avis également ?
Oui, nous sommes parfaitement dans la configuration du divisé pour régner au sein du Maghreb actuellement. On voit que la situation est très évolutive avec des déclarations qui nous viennent de Libye, avec peut-être un retour de la famille Kadhafi au pouvoir. En tout cas, ce dernier a donné des interviews à des grands médias récemment. Il laisse entendre qu'il est un candidat crédible pour les élections qui devraient avoir lieu en décembre. On a aussi une situation en Algérie où l'Algérie s'est réaffirmée comme étant opposée à toute adhésion au camp occidental, elle reste fidèle à ses principes. Et en cela, la situation en Tunisie récemment où, le président proche de la cause palestinienne a pour le coup suspendu, si je puis dire, l'emprise qu'avaient les frères musulmans sur le pays. Et donc le Maroc, dans cette configuration, semble être le point d'appui sur lequel l'OTAN s'appuie, sans faire de jeu de mots, sur la base d'accords dits Abraham, effectivement, qui avait été plus ou moins conclu sans les parties principales, à savoir les autorités du Sahara occidental et sans l'Algérie. Mais bon, tout cela est assez coutumier du fait de la part des Occidentaux. Et dans ce contexte-là, les autorités, en tout cas le gouvernement marocain, s'est engouffré dans la brèche, cherchant une forme d'appui diplomatique et de déclaration qui puisse légalement être utile pour confirmer l'occupation de la dite région en question. Et comme vous le soulignez, effectivement, cette visite dans le cadre de cet accord de normalisation du ministre des Affaires étrangères israélien n'est que la mise en œuvre d'un partenariat basé sur le cynisme politique qui permet à l'OTAN dans sa globalité peut-être d'éventualiser une présence militaire accrue dans une région qui devient de plus en plus instable, je dois dire.
Luc Michel, ce partenariat OTAN, Israël et le Maroc, si on peut le dire, le Maroc, vise-t-il d'après vous, parce que vous dites que voilà, il s'agit d'un projet bien calculé, ce partenariat auquel fait allusion Maître de Volley, vise-t-il par exemple d'autres pays du nord de l'Afrique, très particulièrement la Tunisie et l'Algérie ?
Écoutez, le premier rôle utile du Maroc, c'est bien entendu de contenir l'Algérie. C'est pour ça qu'on a créé de toutes pièces l'opposition géopolitique entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara ex-espagnol. Derrière l'Algérie, il y a actuellement les Russes qui sont là. Il y a une lutte géopolitique qui se mène pour le contrôle de la Méditerranée occidentale et dans lequel l'Algérie joue aux côtés de la Russie un rôle fondamental. C'est le premier rôle du Maroc. C'est pour ça qu'on y a organisé, au lieu de le faire comme d'habitude au Kenya, le grand exercice 2021 Lion africain. Le but, c'est d'intimider l'Algérie, d'intimider le Sahara espagnol et bien entendu d'intimider les nouveaux colonels pro-russes de Bamako. Il ne faut pas oublier que les Israéliens sont l'élément le plus agressif, mais aussi l'allié privilégié de l'axe militaire qui vertèbre les Occidentaux en Afrique, qui est un axe Washington-Paris. Macron est un allié d'Israël. Et bien entendu, Joe Biden, il donne des gages pour expliquer qu'il n'a pas rompu avec la politique de Trump et que le nouveau gouvernement israélien a tout le soutien des États-Unis. C'est à cela qu'il faut constater. Le Maroc a donc un rôle fondamentalement négatif, mais je le répète, qu'il ne s'arrête pas au Maroc, qu'il ne s'arrête pas à la question du Maghreb, mais qui concerne aujourd'hui toute l'Afrique. Le redéploiement américain en Afrique, donc des frontières du Maroc jusqu'au Mozambique, il n'est possible, notamment l'américanisation de la guerre du Sahel qui a été perdue par la France, n'est possible qu'avec l'aide du Maroc. Les Français, eux, sont en train d'être déployés précisément au Mozambique et en mer Rouge, où ils appuient d'ailleurs l'opération israélienne qu'on appelle l'OTAN du Proche-Orient. L'OTAN du Proche-Orient, elle est vertébrée sur une alliance navale de la puissance maritime émiratie qui a émergé de la guerre du Yémen, avec la puissance maritime française, puisque aujourd'hui, après leur échec au Sahel et en Libye, les Français se présentent comme une grande puissance maritime, fort de leur domaine maritime de plus de 10 000 km², qui est le second au monde. C'est ce qu'on appelle les confettis de l'Empire. Donc, tout à fait, le Maroc, bien entendu, il a un rôle essentiel au milieu de tout cela. Il rend les choses possibles, à la fois l'arrivée de l'OTAN en Afrique, mais également les projets géoéconomiques de la France, ce qu'on appelle la France-Afrique 2.0. Au milieu de tout ça, il y a une espèce de triangle Washington-Paris-Tel Aviv, où chacun se rend des services mutuels. Les Israéliens gagnant un succès pour leur diplomatie, ce que serait le statut d'observateur au sein de l'Union africaine. Les choses ne sont pas encore gagnées d'ailleurs là-bas, mais les Français gagnent évidemment en voyant leur projet géoéconomique accepté et les Américains en voyant leur projet de recolonisation militaire de l'Afrique. C'est donc un rôle totalement négatif du Maroc.
Et Maître de Volley, la question qui se pose actuellement est de savoir, est-ce que cette normalisation avec le régime israélien, cette approche adoptée dans la politique étrangère de Rabat, qui consiste en fait à considérer désormais Israël comme un régime, un ami, est-ce que cela est dans l'intérêt, si vous voulez, du Maroc et des Marocains, du peuple marocain?
Eh bien, écoutez, seul le temps le dira. Ce qui est certain, c'est que le pouvoir marocain doit évoluer dans un contexte élargi où il n'est malheureusement qu'une puissance moyenne, hein, si je puis dire. Et dans ce contexte-là, il doit faire des calculs à court terme, moyen terme, et espérons-le pour lui, en tout cas dans sa façon de voir les choses, long terme. Est-ce que le peuple marocain maintenant adhère à ce positionnement géostratégique? C'est une autre histoire. On sait qu'il y a beaucoup de factions au sein de la société civile marocaine qui n'approuvent pas du tout de ces accords de normalisation. Donc dans ce contexte-là, le pouvoir marocain prend un risque assez conséquent et doit prendre en compte le fait qu'à un moment donné, ces calculations peuvent être contre-productives et coûter peut-être au Maroc son indépendance pleine et entière. Mais est-ce que le Maroc a le choix? Je pense qu'on a toujours le choix. Mais dans l'absolu, c'est une question de rapport de force. Le Maroc tire parti d'un jeu qui le dépasse, mais pour ses intérêts bien compris, arrive quelque part à tirer son épingle du jeu. Reste à savoir sur la durée si ce choix, si cette option lui sera bénéfique ou plutôt détrimentale.
Luc Michel, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que, en fait, le Maroc, pour interpréter cette visite à Rabat du ministre israélien des Affaires étrangères, le Maroc s'est transformé en un outil au service de la politique de l'OTAN, de la politique des États-Unis, qui consiste en fait à permettre aux Américains, à l'OTAN de se redéployer, si vous voulez, de partout en Afrique. Vous avez fait allusion également à la Russie. On peut faire allusion également à la Chine, deux pays qui sont présents sur le continent africain. Peut-on dire que le Maroc est devenu un outil au service de la politique de l'OTAN et en l'occurrence des États-Unis pour, si vous voulez, viser la Chine et la Russie également, Luc Michel?
Bien entendu, le Maroc a fait des calculs géopolitiques à court terme. L'histoire de la CEDEAO avec Macron, ça sert les intérêts des banques marocaines. Et le Maroc a un pouvoir beaucoup plus important qu'il ne l'aurait s'il était ramené à cette dimension. Mais à long terme, c'est un calcul qui va se révéler extrêmement coûteux parce que le Maroc s'est désigné comme l'adversaire de la Russie. Secondement, le Maroc est impliqué dans une série de ce qu'on appelle en France des barbouzeries avec les Israéliens. Il y a l'affaire de la firme d'espionnage israélien qui est un service d'espionnage privé NSO. Il y a une autre affaire actuellement. Il y a une campagne d'information, de désinformation plutôt, qui fait croire que le trafic de drogue à Anvers en Belgique et à Rotterdam aux Pays-Bas est pris en main par le Hezbollah libanais. En réalité, il y a eu des enquêtes menées par la presse mainstream belge l'année dernière qui indiquent que le trafic de drogue dans ces deux villes, notamment à Anvers, où la mafia marocaine a pris le contrôle, que ce trafic est contrôlé par la mafia marocaine, notoirement liée au service secret marocain. On peut donc se poser la question de toutes ces désinformations. Il y a un autre adversaire d'Israël qui est présent maintenant en Afrique centrale, c'est le Liban. Ce sont les plans d'arrivée de l'Iran en Afrique qui ont été élaborés par le contre-amiral Hossein Kandazi, qui est le chef de votre marine, qui est l'architecte de cette expansion iranienne. Les Iraniens, maintenant, sont présents au Sénégal. Ils sont présents dans plusieurs pays du Golfe de Guinée. Et donc, la présence israélienne au Maroc, c'est une manière de contenir directement l'Iran. Il n'y a pas seulement que la question de l'Algérie, mais de plus en plus, la confrontation auquel on assiste, c'est une confrontation qui ne sera pas profitable au Maroc. Qu'est-ce que le Maroc a recherché? C'est un bénéfice immédiat. C'est la reconnaissance par les Américains et, espère-t-il, par l'Union européenne de leur domination sur le Sahara ex-espagnol. Mais c'est vraiment un objectif à extrêmement court terme. Et je doute d'ailleurs que l'Union européenne suive là-dedans. Voilà la question qu'il faut savoir. Lorsqu'on étudie la géopolitique, il faut prendre en compte ce qu'on appelle les cycles longs. La géopolitique repose sur ces cycles longs. Elle ne repose pas sur des coups de poker, sur des soi-disant tournants géopolitiques. Ça, c'était la géopolitique telle que l'envisageait Trump, et elle n'a abouti qu'à des catastrophes. La Russie, par contre, mène des opérations géopolitiques à long terme, et c'est ce qui va se retourner un jour ou l'autre contre le Maroc. Il y a particulièrement un projet de la Russie, c'est de rétablir une base maritime de la flotte russe en Algérie, comme du temps de l'Union soviétique. Au temps de l'Union soviétique, c'était à Mersel-Kébir, dans l'ancienne base française. On parle d'un retour des Russes là-bas. Ce sera bien évidemment une catastrophe pour le Maroc. Le Maroc qui s'apprête à accueillir la superbase de l'USTV en Méditerranée, et donc qui va se diriger dans une confrontation directe avec les...
Luc Michel, je vous remercie infiniment d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Bruxelles. Mes vifs remerciements vont également à vous, Maître Arnaud de Volley, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Damas. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt. À tous et bienvenue dans cette émission Focus. Les ambassadeurs britanniques et russes sont convoqués au ministère iranien des Affaires étrangères. Suite à la publication d'une photo de la récente rencontre entre les ambassadeurs russes et britanniques à l'ambassade de Russie à Téhéran, l'ambassadeur britannique Simon Chersliff a été convoqué au ministère iranien des Affaires étrangères. Suite à la publication de la photo, ce jeudi 12 août, le directeur général du département pour l'Europe occidentale du ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadeur britannique, estimant que cet acte négligent avait blessé les sentiments nationaux et la fierté du peuple iranien. Il a souligné que le grand peuple iranien a toujours prouvé à travers l'histoire qu'il rejetait et résistait fermement à tout mouvement né de pensées arrogantes. De son côté, l'ambassadeur britannique a regretté ce malentendu, tout en respectant la République islamique d'Iran, son grand peuple, l'histoire de ce pays. Je souligne qu'il n'y avait aucune intention derrière cette question et que les ambassadeurs essayaient seulement de rappeler l'alliance de la Russie et de la Grande-Bretagne contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, a-t-il précisé. Au final, l'ambassadeur britannique a espéré qu'au cours de sa mission à Téhéran, il pourra contribuer à développer les relations entre les deux pays fondées sur le respect et de la confiance mutuelle. Auparavant, l'ambassadeur de Russie à Téhéran, Levan Dehagarian, avait été également convoqué au ministère des Affaires étrangères. L'Iran a convoqué l'ambassadeur russe à Téhéran au sujet de la publication par l'ambassade de Moscou d'une photo controversée qui a été prise pour rappeler une conférence de la Seconde Guerre mondiale à Téhéran. L'ambassadeur russe en poste à Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour donner des explications sur la publication de la photo sur Twitter qui le montre avec son homologue britannique en réunion sur la véranda de l'ambassade de Russie à Téhéran, le même endroit où a eu lieu une réunion en 1942-3 entre d'anciens dirigeants soviétiques, américains et britanniques de l'époque, à savoir Joseph Staline, Franklin Roosevelt et Winston Churchill, deux ans après l'invasion anglo-soviétique de l'Iran. Le diplomate russe a expliqué que la publication de la photo avait simplement pour but de mettre en évidence l'alliance avec la Grande-Bretagne pendant la Seconde Guerre mondiale contre l'armée nazie et n'avait aucune visée anti-iranienne. Il a rappelé par la suite les liens profonds et stratégiques entre l'Iran et la Russie, tout en regrettant que la photo ait blessé les sentiments du peuple iranien. Après avoir entendu ces explications, le directeur général du département Orazi du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la publication d'une telle photo était inacceptable et qu'il était indispensable que les missions étrangères portent une attention particulière aux exigences politiques et culturelles et historiques de l'État hôte. La photo a vite circulé et provoqué l'indignation générale chez les Iraniens. Les hauts responsables du pays l'ont même considéré comme une insulte à la République islamique d'Iran. Sur Twitter, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, l'a qualifié d'extrêmement inapproprié et a déclaré « Ai-je besoin de rappeler ?» à tous ce août de 2021, ni août 1941, ni décembre 1943. Le peuple iranien a montré, y compris lors des pourparlers du plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien, que son destin ne peut jamais être soumis aux décisions des ambassades étrangères ou des puissances étrangères, a martelé le ministre iranien des Affaires étrangères.
Et de son côté, le président du Parlement iranien, Mohammad Borrell Gholibov, a qualifié la rencontre entre les émissaires russes et britanniques d'inappropriée et d'incompatible avec les protocoles diplomatiques, appelant le ministère des Affaires étrangères à donner suite à cette affaire. Les deux ambassadeurs doivent rapidement présenter des excuses officielles, sinon une action diplomatique ferme sera nécessaire, a souligné le président du Parlement iranien. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale d'Iran, Ali Shamkhani, a déclaré que l'adhésion de l'Iran à l'organisation de coopération de Shanghai serait finalisée une fois que les obstacles politiques auront été levés. Ali Shamkhani a déclaré mercredi dans un article publié sur sa page de Twitter officielle qu'il avait discuté des développements en Afghanistan, en Syrie et dans le Golfe Persique avec son homologue russe, ajoutant que l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai avait également été examinée lors de sa rencontre avec le chef du Conseil de sécurité russe, Nikolai Patrouchev. Heureusement, les obstacles politiques à l'adhésion de l'Iran à l'Organisation de coopération de Shanghai ont été levés et l'adhésion de l'Iran sera finalisée, a-t-il souligné. Le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, Sheikh Naïm Qassem, a souligné que la résistance était prête à faire face à toute agression israélienne contre le Liban, notant que la dernière frappe de représailles dans les fermes occupées de Sheba a délivré ce message. Lors d'une cérémonie de commémoration de la deuxième nuit d'Ashura, Sheikh Naïm Qassem a déclaré « Tous doivent savoir qu'Israël est un véritable ennemi ». Pourquoi a-t-il occupé notre pays pendant 18 ans ? Parce qu'il voulait contrôler le Liban sur les plans politiques, culturels, sociaux et moraux. Il voulait faciliter la naturalisation et s'emparer de notre terre. Cependant, la résistance islamique ainsi que l'équation armée-peuple-résistance ont déjoué le plan israélien, a déclaré Sheikh Naïm. Qassem. Certains disent que nous ne voulons pas débuter un conflit avec Israël afin d'éviter d'être bombardés. Qui a commencé le combat avec Israël? Il nous a attaqués et nous avons riposté. Si nous n'avions pas riposté, il aurait mené de raids supplémentaires afin de voir si nous allions nous confronter ou garder le silence. Dans ce contexte, il a noté que le régime sioniste voulait, par ses frappes, savoir si les crises internes que traverse le Liban ont affecté l'état de préparation de la résistance. Et Dieu merci, Israël sait maintenant que malgré toutes les difficultés au Liban, la résistance est totalement prête avec ses armes et déterminée à relever n'importe quel défi en cas de guerre israélienne, a-t-il conclu. Le chef de la délégation nationale de Yéménite, Mohammad Abdelsalam, a souligné que les États-Unis sont ceux qui entravent toutes les solutions politiques au Yémen. Monsieur Abdelsalam a expliqué sur son compte Twitter que l'intervention américaine au Yémen a conduit à la violation de la souveraineté nationale par une agression brutale, à savoir l'agression militaire menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Il a souligné que les États-Unis ont imposé un blocus étouffant contre les Yéménites, ayant abouti à des catastrophes affectant tous les aspects de la vie, tout en œuvrant à activer les éléments d'Al-Qaïda et de Daesh. Et puis, dans son entretien avec la chaîne Al-Olam, le dirigeant yéménite a confirmé que les États-Unis sont ceux qui soutiennent les terroristes de Daesh et d'Al-Qaïda à Marib.
Eh bien, chers amis, ici touche à sa fin cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne.
Thank you.